Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Clap, votre émission dédiée au cinéma sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Salut à tous, je suis Esmeralda et je vous embarque pour cette émission spéciale réalisée par des étudiants de différents campus de Subdecom. On est en direct sur 93.9 FM et aujourd'hui, on plonge ensemble dans les Oscars qui viennent tout juste d'avoir lieu. Au programme aujourd'hui, on démarre avec Isa et son billet d'humeur Has Been Iconic pour décrypter les Oscars. Ensuite, Camilo nous dressera le portrait d'un réalisateur culte, Quentin Tarantino, dans sa chronique Silence Radio. Après une petite pause musicale, place au débat avec Fanny sur un sujet brûlant, la place des influenceurs dans le cinéma. Puis Sarah nous révélera quelques anecdotes surprenantes sur les trophées dans le « Saviez-vous ?». Et enfin, je vous retrouverai pour conclure cette émission en beauté. Accrochez-vous, le clap, c'est parti !
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Pour commencer, on va parler des Oscars sous un autre angle. Est-ce que cette cérémonie fait toujours rêver ou commence-t-elle à être un peu dépassée ? Isa nous donne son avis dans sa chronique « Has Been ou Iconique ». C'est à toi !
Bonjour tout le monde et bonjour Esmeralda. Comme tout le monde le sait, le 2 mars, c'était la cérémonie des Oscars et ils ont rassemblé cette année 19,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit 4% de plus que l'an dernier. Mais franchement, on reste quand même loin des 43 millions en 2014. Alors est-ce que c'est vraiment l'événement incontournable du cinéma ou juste finalement une cérémonie en perte de vitesse ? On se lève, on salue, on remercie sa mère, son chien, le réalisateur qu'on déteste sur le tournage. Les Oscars, c'est une institution, certes, mais finalement, est-ce qu'en 2025, ça fait vraiment encore rêver ? Ou c'est juste un vieux trophée poussiéreux qui traîne sur l'étagère à Hollywood ? Il y a aussi un gros problème de décalage entre les films récompensés et ceux qui cartonnent en salle. Cette année, la grande gagnante, c'était Anora, un film indépendant, alors que Barbie et Oppenheimer, qui ont explosé le back-office avec plus de 2 milliards de dollars, sont repartis avec des prix majeurs. Les audiences stagnent alors que d'autres événements explosent. Cette année, Super Bowl a battu un record avec 128 millions de spectateurs, soit 6 fois plus que les Oscars. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que les Oscars sont-ils en train de devenir has-been ? Pas forcément, mais pour rester pertinent, il faudra les moderniser. Plus de participation du public, des catégories beaucoup plus actuelles et surtout une cérémonie beaucoup plus courte et beaucoup plus rythmée. Parce qu'en 2025, si un film est vu par des millions de gens mais ne gagne rien aux Oscars, est-ce que ça veut encore dire quelque chose ? À méditer.
Merci Isa, merci pour ces vérités qui fâchent. Maintenant passons à Camilo. Il a marqué le cinéma avec son style unique, ses dialogues occultes et son amour pour les plans iconiques. Aujourd'hui, Camilo nous plonge dans l'univers de Quentin Tarantino. Camilo, c'est à toi.
Salut Esmé, salut tout le monde. Bienvenue dans Silence Radio, la chronique ciné qui refuse de parler des icônes dont tout le monde parle déjà trop. Chaque semaine, une légende du cinéma est placée sous silence. On l'oublie, on l'évite, on l'ignore. Et aujourd'hui, on ne parle pas de Quentin Tarantino, même si évidemment, c'est lui qui nous intéresse. Avec son film Once Upon a Time in Hollywood, et oui, je suis assez bilingue, il a fait briller Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, mais il a surtout lancé la carrière d'artiste qui explose aujourd'hui, notamment en 2025 aux Oscars. Petit tour d'horizon. Mickey Madison a seulement 25 ans, elle brille dans Anora qui a tout raflé cette année. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Anora, le même film, qui fait d'elle la plus jeune des lauréates. Austin Butler, après sa nomination à l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d'Elvis Presley, il enchaîne les projets majeurs, notamment dans Dune Partie 2, film nommé aux Oscars. Maya Hawke, révélée dans Stranger Things, elle est cette année à l'honneur dans Vice Versa 2, film encore une fois nommé aux Oscars. Finalement, Margaret Qualley, elle explose cette année dans The Substance, comme vous l'avez compris, film nommé aux Oscars. Bref, on pourrait parler de tous les autres, mais je veux surtout parler du flair exceptionnel de Victoria Thomas, directrice du casting du film. Elle sait décidément comment repérer les futurs Oscars. Et maintenant, je passe la main à Esmé, qui a tout autant de talent pour repérer les chroniqueurs.
Oh, merci. Merci Camilo et merci pour ce magnifique accent anglais. Maintenant, nous allons revenir dans un instant, juste après une petite pause musicale, avec Popular d'Ariana Grande, du film Wicked. Popular, you're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys. The ways to flirt and flounce. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything
that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a power sister and advisor, there's nobody wiser. Not when it comes to popular. I know about popular, and with an assist from me to be who you'll be instead of dreary who you were. Well, R, there's nothing that can stop you from becoming popular. Lar. La, 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 la. We're gonna make you popular. When I see depressing creatures with possessing features, I remind them on their own behalf to think of separated heads of state or specially great communicators. Did they have brains or knowledge? Don't make me laugh. They were popular. Please, it's all about popular. It's not about aptitude, it's the way you're viewed. So it's very shrewd to be very, very popular like me. And though you protest your disinterest, I know clandestinely you're gonna grin and bear it. You move on popularity. La, 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 la. You'll be popular, just not quite as popular as me.
On vient d'écouter Popular d'Ariana Grande. L'émission Le Clap continue sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Bienvenue à notre journaliste Fanny. Vous recevez différentes figures du 7e art et du monde de l'influence. On va parler de la place des influenceurs dans le cinéma d'aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un sujet qui fait débat, la place des influenceurs dans le cinéma. Depuis quelques années, de plus en plus de créateurs de contenu issus des réseaux sociaux se retrouvent à l'affiche de films, invités aux festivals prestigieux comme Cannes ou alors même aux Oscars et aux Césars. Certains voient cela comme une évolution naturelle du paysage médiatique, une manière d'attirer un nouveau public en salle. D'autres, en revanche, estiment que cette tendance décrédibilise le métier d'acteur et menace la légitimité du cinéma. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Agnès, influenceuse lifestyle, Victoria, actrice établie de cinéma depuis quelques années maintenant, et Jade, responsable de casting. Alors Jade, de par votre métier, qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?
Alors moi, c'est une tendance que je vois vraiment de plus en plus, parce que les producteurs sont conscients qu'un influenceur peut amener son public en salle, parce que le marketing est un enjeu majeur aujourd'hui, mais par contre, la notoriété ne suffit pas. En tout cas, pas pour tout le monde, parce qu'il faut avoir du talent et savoir jouer.
Après, justement, c'est là que le sujet blesse. Le cinéma, c'est pas juste un art seulement, enfin, c'est aussi un outil promotionnel. Le vrai problème, c'est la dilution de la légitimité artistique. Même en tant qu'acteur, on est aussi tiré entre explorer de nouveaux horizons et garder notre intégrité artistique. Mais quand on a passé des années à étudier, passer des castings et qu'un influenceur décroche un rôle pour son nombre d'abonnés, c'est frustrant.
Je comprends tout à fait ton point de vue, Victoria, mais tous les influenceurs ne se contentent pas de profiter de leur popularité. Il faut voir les choses sous un autre angle, en réalité. Être influenceur, ce n'est pas juste être populaire. Nous créons du contenu, nous écrivons des scripts pour nos vidéos, nous jouons des personnages. C'est une autre forme de jeu, plus spontanée et plus proche de notre public. Quand j'ai eu l'opportunité de jouer dans un film, je ne me suis pas dit que c'était facile. J'ai pris des cours, comme n'importe quel acteur, et j'ai écouté des professionnels. Si on est prêt à apprendre et à progresser, pourquoi on nous fermerait les portes ?
Et Victoria, pensez-vous que les influenceurs nuisent aux acteurs traditionnels ?
Certains oui, quand un rôle est donné uniquement pour des raisons marketing, sans que la personne ait le talent nécessaire, c'est injuste. Mais si un influenceur fait le travail, se forme et joue bien, alors pourquoi pas ?
Après, c'est ce qui fait la différence. On voit vite ceux qui prennent le métier au sérieux et ceux qui pensent que c'est juste un prolongement de leur image publique. J'ai déjà travaillé avec des influenceurs qui avaient un vrai jeu d'acteur à l'écran et d'autres pour qui c'était une vraie catastrophe.
Mais c'est pareil pour tous les débutants, non? Il y a des acteurs inconnus qui passent des castings et qui ne sont pas forcément bons. Pourquoi est-ce que les influenceurs devraient être plus jugés sévèrement?
Parce qu'ils ont un avantage énorme dès le départ. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves pour être repérés. Le problème de concurrence, pour moi, ce n'est pas le plus grand problème. Le jeu, c'est qu'on est pris ou on n'est pas pris. Mais la question d'opportunité, elle est super importante.
C'est vrai, je ne vais pas dire que c'est totalement équitable, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'adaptation? Le cinéma a toujours évolué. À une époque, c'était des acteurs de théâtre qui dominaient. Puis il y a eu les chanteurs, les mannequins. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont changé complètement la manière dont on découvre nos talents. Et un influenceur qui joue mal ne trompera personne.
Mais vous, Victoria, en tant qu'actrice, qu'en pensez-vous? Est-ce que leur présence dans les festivals prestigieux comme Cannes ou les Césars et les Oscars est-elle justifiée? Ne risque-t-elle pas de détourner l'attention des professionnels du cinéma?
Bah oui et non. Derrière, ça nous donne aussi la pression de commencer à avoir une présence médiatique. On se rend compte que ça peut donner un avantage considérable, surtout pour se faire repérer pour des grands rôles.
Et Jade, est-ce que cette tendance va changer durablement le cinéma?
Oui, mais pas seulement pour les acteurs. Les plateformes de streaming, la manière dont les films sont financés et promus, tout évolue. Les influenceurs ne sont qu'un symptôme de cette mutation. Certains films seront conçus avec eux dès le départ, puis d'autres resteront plus traditionnels.
Moi, je pense qu'on peut mélanger les deux. Il y aura toujours des films d'acteurs avec des acteurs classiques et d'autres promotions plus commerciales où il y aura des influenceurs qui peuvent apporter quelque chose en plus.
Il y a un vrai changement dans les attentes du public auquel on doit s'adapter. Pour nous, les web-séries vont sûrement devenir un axe de carrière. J'espère juste que ça ne deviendra pas une règle imposée par les studios où chaque film doit forcément inclure une star du réseau pour exister.
Après, tant que le public suit, la tendance, elle continuera. Mais au final, c'est toujours le talent qui fait la différence, acteur ou non. Un influenceur mal casté dans un film, ça se voit et ça pardonne pas.
Donc en résumé, les influenceurs ont trouvé une place dans le cinéma, mais leur succès dépendra de leur capacité à s'adapter aux exigences du métier. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour cette discussion passionnante.
Merci pour ce débat très intéressant. Le cinéma est un monde assez grand pour tous les talents. Maintenant, passons à Sarah. On connaît tous les Oscars, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où viennent ces fameux trophées? Pourquoi ils ont cette forme et s'il en existe d'autres tout aussi surprenants? Sarah nous dévoile quelques secrets dans le Saviez-vous? À toi, Sarah.
Hello tout le monde. Et oui, c'est la minute Cinéfact et nous allons lever le rideau sur les fameux trophées qui cachent plusieurs secrets. Saviez-vous déjà que la statuette pèse environ 3,85 kg pour seulement 34 cm de hauteur? Donc ce n'est pas juste un bout de métal doré, mais quasiment un halter pour les lauréats qui doivent le lever fièrement. La statuette représente un chevalier tenant une épée verticalement debout sur une bobine de film. Elle a été dessinée par Cédric Gibbon, j'espère que je prononce bien, en tout cas, qu'il est directeur artistique du studio hollywoodien MGM et ça a été réalisé par le sculpteur George Stanley. Passons maintenant aux Oscars. Donc pourquoi Oscar à votre avis?
Bah alors écoute, il y a plusieurs théories qui circulent sur l'origine de ce fameux nom Oscar. D'autres disent que ça représente la statuette qui ressemble peut-être à l'oncle, au père ou même au chien de la personne qui l'a créée. Mais finalement, on n'a pas vraiment la réponse.
Alors officiellement, on devrait l'appeler Academy Award of Merit, mais la légende raconte effectivement que la bibliothécaire de l'Académie aurait un jour déclaré que la statuette ressemblait à son oncle Oscar, et donc le surnom est resté. L'Oscar, justement, est fabriqué en britannium, qui est un alliage de plusieurs métaux, et recouvert d'or 24 carats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pénurie de ces métaux, et donc ils ont remplacé ces matériaux par du plâtre peint en or. Donc c'est pas très glamour, mais les gagnants ont pu échanger leur modèle contre un vrai, avec les 24 carats, etc. Donc voilà, vous savez tout ou presque sur les trophées des Oscars.
Merci Sarah, merci pour ces informations. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission spéciale Oscar. Merci à toute l'équipe et à nos invités. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir écoutés sur 93.9 FM. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Le Clap. D'ici là, continuez à vivre votre passion du cinéma et pourquoi pas revoir un bon Tarantino. À très vite!
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre dimanche a été reposant. Vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'écouter Nos régions ont du talent. C'est Charlotte au micro. Aujourd'hui, je vous emmène pour un tour de France.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
En ce beau dimanche de mars, Tessie, Axel, Martin, Talina, Lilia et Léa sont avec nous pour dépeindre le magnifique territoire qu'est notre pays et en saisir toutes ses nuances. Nous commencerons donc avec Axel qui retracera l'histoire de nos régions. Nous accueillerons ensuite Talina qui tentera de nous éclairer sur les mystères de l'Alsace. Nous continuerons avec Tessie qui répondra à la question de l'un de nos auditeurs. Shams prendra le relais et questionnera notre invité Martin sur la Normandie. Et nous finirons en beauté avec un petit quiz pour tester les connaissances de nos amis présents aujourd'hui dans ce studio.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Salut Axel, alors il me semble que tu es là aujourd'hui pour nous parler histoire de nos régions. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Salut, aujourd'hui ouais, on va s'intéresser aux régions françaises, d'où viennent-elles et comment se sont-elles formées ? Parce qu'en vrai, beaucoup confondent encore régions et départements, donc on fait le point ensemble. Alors commençons par une définition. Une région, c'est une division administrative qui regroupe plusieurs départements. Il y en a 13 en métropole et 5 en outre-mer. Les départements, eux, sont plus petits et ont été créés en 1790 pendant la Révolution française pour simplifier la gestion du pays. Alors que les régions, elles, sont apparues bien plus tard, d'abord sous forme de regroupements économiques avant de devenir des collectivités territoriales avec des compétences propres en 1982 grâce aux lois de décentralisation. Par contre, l'histoire des régions ne commence pas en 1982. Certaines ont des racines plus anciennes, comme la Bretagne, qui était indépendante avant d'être rattachée à la France en 1732. Elle a gardé une identité forte avec sa langue, qui est le breton, ses traditions et même son drapeau, le Guenadou. La Bourgogne, elle, a connu son apogée sous les ducs de Bourgogne, qui étaient parmi les plus puissants d'Europe au Moyen-Âge. Aujourd'hui encore, son héritage est visible à travers son super bon vin et sa belle architecture. Et la région qui me tient le plus à cœur, c'est l'Occitanie, c'est ma région et en toute objectivité, c'est la plus belle entre ses paysages et les gens qui y vivent. Mais reprenons, née de la fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées en 2016, de Toulouse à Montpellier en passant par le pays catalan, l'Occitanie est une région marquée par une forte identité culturelle et des pays variés entre mer et montagne. D'ailleurs, si vous passez par Toulouse, on se retrouve place Saint-Pierre. Mais on ne peut pas finir sans parler de l'Alsace, une région qui a changé plusieurs fois de nationalité entre la France et l'Allemagne, notamment après la guerre de 1870 et les deux guerres mondiales. Aujourd'hui encore, elle reste un symbole fort d'une identité marquée avec son dialecte, son architecture et sa gastronomie incroyable. Vous l'aurez compris, nos régions ne sont pas de simples découpages administratifs. Elles portent toute une histoire, une culture bien à elles, parfois même une langue propre. Alors que nous soyons bretons, bourguignons, occitans, alsaciens ou d'ailleurs, une chose est sûre, votre région a bien des choses à raconter. Et vous, dites-nous d'où vous venez et vos spécialités régionales.
Bah tiens, justement, en parlant d'Alsace, nous avons aussi notre très chère Talina qui souhaite poser quelques questions à Léa, l'une de nos invitées du jour et pure alsacienne.
Merci Charlotte. Hello, hello. Aujourd'hui, donc, on reçoit Léa qui nous vient tout droit d'Alsace. Salut Léa, t'as fait bonne route ?
Salut, oui, ça a été assez rapide en soi, 3 heures, Mulhouse, Paris, Gare de Lyon.
Génial, en tout cas, on est super contents de te recevoir. J'ai quelques questions pour toi Léa. Aujourd'hui, on va parler des clichés alsaciens. Est-ce que t'es prête ?
Avec plaisir.
C'est parti. Alors moi, tu me dis Alsace, je pense direct à choucroute. Je sais pas si c'est le cas de tous nos auditeurs aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la choucroute, Léa ?
Alors oui, c'est un plat typique à base de choux. On a plusieurs pièces de viande, de la palette et notamment de la saucisse de Strasbourg que nous, on appelle knack. C'est une saucisse typiquement alsacienne.
Une knack, ok, comme des knackis en fait.
Ah non, pas du tout. Ça, c'est une aberration. Les knackis, c'est très industriel et c'est la marque Herta, je crois. Nous, ça n'a rien à voir. C'est du boyau naturel de mouton et c'est local, quoi. C'est pas fait industriellement. Après, en Alsace, il n'y a pas que la choucroute. C'est une région hyper riche en gastronomie. On a beaucoup de plats en sauce, avec de la patate, de la viande. Et moi, mon plat préféré, c'est les bouchées à la reine.
En tout cas, ça donne l'eau à la bouche. On continue sur notre sujet préféré, à savoir la nourriture. tu kiffes ou tu kiffes pas la flamencuche ? Moi, j'adore.
Alors oui, j'adore, mais c'est assez paradoxal parce que le mot flamencuche, en fait, on dit ça que dans le reste de la France. Nous, on appelle ça une tarte flambée. Flamencuche, c'est un mot allemand, et ou alors localement, on peut le dire en alsacien. Et de mon côté, c'est Flammkuchen.
Flammkuchen.
Oui, voilà,
okay,
c'est ça.
Ça marche. C'est étonnant parce que c'est vrai que on aurait plutôt pensé le contraire, comme l'Alsace est frontalier à l'Allemagne.
Oui, mais c'est assez vexant parce que des fois, on nous appelle les Allemands et on est vraiment français avec une identité propre et une culture. Après, oui, c'est vrai qu'il y a de l'influence germanique dedans, mais tout ça, c'est dû à l'histoire. Mais je tiens à préciser qu'on est vraiment français et on fait partie de la France.
Ok, d'accord. Mais donc, est-ce que vous avez une langue régionale ? Ça ressemble à quoi, en fait, l'accent alsacien ?
Alors, oui, on a un accent et une langue régionale. Je peux vous faire une petite démo.
Avec plaisir.
Donc on a une langue régionale, après elle dépend en fonction de si on habite du nord ou du sud. Moi je suis plus du sud de l'Alsace, autour de Mulhouse, et c'est une région qui dans le passé a souvent été entre la France et l'Allemagne, et il y a quelques années il y avait encore des gens qui ne parlaient que alsacien et qui ne savaient pas parler français. Donc il y avait le journal Les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace, qui était édité uniquement en français, et on avait une version alsacienne encore, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'on a le public qui n'est plus vivant, quoi.
D'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. C'est hyper chantant comme accent. J'adore. Merci. Et puis, bah écoute, on espère te revoir bientôt sur Radio Campus.
Et bah, ce sera avec plaisir.
Alors, on me dit dans l'oreillette que l'on a une auditrice au standard qui a une question pour toi, Tessie. On l'écoute.
Salut, c'est Lilia, je suis de Strasbourg et en fait je suis à Paris depuis 2 ans pour mon master. Je pense que je vais me spécialiser l'année prochaine et j'aimerais bien peut-être partir dans le sud. Mais le problème c'est que je sais pas trop comment ça se passe la vie là-bas, les étudiants, est-ce que c'est pas un peu les stéréotypes des cagoles, etc. Donc est-ce que vous auriez des retours de votre vie étudiante et un peu comment vous ça s'est passé quoi?
Alors, en tant qu'étudiante dans le sud-ouest, je suis ravie de répondre à cette question. Donc franchement, si tu as la chance d'étudier dans le sud, tu vas vite comprendre pourquoi c'est top. Déjà ici, c'est super facile de se faire des amis. Les gens sont ouverts, détendus et toujours partants pour discuter ou partager de bons moments. L'ambiance est cool, que ça soit à la fac, en soirée ou même juste en terrasse. Ensuite, on va pas se mentir, le soleil, ça change vraiment tout. Fini les journées grises et déprimantes. Ici, dès mars, tu peux sortir en t-shirt. Et le dernier point qui est génial, c'est que tout est à côté. Plage, océan, montagne, peu importe où tu vas dans le sud, t'as franchement un spot parfait à côté pour faire tout ce que tu veux. Tu peux organiser une journée surf, le lendemain une virée en montagne et même le surlendemain tu peux organiser une après-midi dans le sable avec tous tes amis.
Ah mais je suis totalement d'accord avec toi, moi à Toulouse j'ai rencontré une bonne partie de mes potes en soirée ou en études sup et franchement l'ambiance ici est incroyable, les gens sont hyper sociables, toujours partant pour discuter et tu te fais des amis super facilement. Puis avec le soleil, tout est plus simple, entre apéro en terrasse, sortie sur les quais de la Garonne et les week-ends à la mer, t'as toujours quelque chose à faire. Franchement la vie étudiante dans le sud c'est vraiment une pépite.
Je partage clairement ton avis. Bref, la vie étudiante dans le sud, c'est du soleil, des rencontres faciles et un cadre de ouf. Et surtout, profiter et faire la fête tous ensemble. Donc si jamais tu décides de venir dans le sud, on sera ravis de t'accueillir.
Un grand merci à toutes les deux pour cet échange qui, je pense, a été très enrichissant pour nous tous et pour notre auditrice en particulier. Je vous propose maintenant de vous détendre avec un joli morceau qui, j'en suis sûre, vous fera voyager très loin.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Y'a
temps dure longtemps. Et la vie surprend. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
C'était le sud de Nino Ferré.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Allez, on repart maintenant avec Shams qui souhaitait adresser quelques questions à Martin, tout droit venu de Normandie.
Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Martin, expert normand et natif de la région, qui va nous aider à y voir plus clair sur ces clichés auxquels il est souvent associé. Salut Martin, avant tout merci d'être là aujourd'hui, j'espère que le trajet s'est bien passé. Alors on commence avec le premier cliché qu'on entend souvent. En Normandie, il y a plus de vaches que d'habitants, c'est vrai ou pas?
Alors déjà, merci de m'avoir invité. Alors je vais te faire une réponse en normand, hein, clairement, hein, peut-être ben que oui et peut-être ben que non. C'est vraiment que dans l'Orne et la Manche qu'il y a plus de vaches que d'habitants. Mais par contre, c'est pas partout en Normandie. Moi, d'où je viens, au Havre, dès qu'on sort de la ville, on voit que ça, des vaches.
Ah, donc ça dépend des coins. On retiendra que si on veut voir des vaches, il faut aller du côté de l'Orne et de la Manche. Allez, on passe au prochain cliché. C'est vrai ce qu'on dit, c'est en Normandie qu'il pleut le plus souvent.
Alors, sur le coup, c'est faux. C'est le Pays Basque qui décroche la palme de pluie cumulée sur l'année, même si effectivement, on dit souvent qu'un coucher de soleil normand est toujours accompagné de pluie.
Ah, donc la Normandie a une réputation un peu exagérée sur la pluie. Mais j'avoue, j'aime bien l'idée du coucher de soleil normand sous la pluie, ça fait presque un peu romantique. Cliché numéro 3, on entend souvent que les Normands seraient descendants du peuple viking. C'est vrai ou c'est juste une légende?
Alors c'est à moitié vrai, car les Vikings étaient assez peu nombreux face aux Gaulois, Saxons et Anglais qui se sont, on va dire, incrustés dans la région il y a longtemps.
Et donc toi Martin, t'es un Viking ou pas?
Alors, moi, ma famille est effectivement originaire des Vikings, pas toute ma famille. Et d'ailleurs, fun fact, en ancien norvégien, mon nom de famille, Tubeuf, veut dire maison sur colline.
Passons à la prochaine question, on parle de camembert. Moi, j'adore le camembert. Certains diront qu'il a un goût un peu trop prononcé ou un parfum bien marqué. Est-ce que c'est 100% normand?
Alors, c'est vrai qu'on est super fiers de notre camembert en Normandie, mais depuis 2019, l'AOP s'est élargie pour intégrer du lait d'autres régions dans le camembert. Mais croyez-moi, le meilleur camembert, il sera pour moi toujours 100% normand.
Et enfin, on passe à la question que tout le monde se pose chez nos auditeurs. Quel est l'alcool régional?
Tous, moi perso je bois tout en fait, mais dans la région c'est vrai qu'on va produire énormément de cidre, de calva. D'ailleurs, une autre petite fun fact, avant à l'école en Normandie, je pense qu'il y a bien quelques années, on servait encore des bols de cidre aux enfants.
Et donc aujourd'hui vous nous avez apporté un peu de cidre ou du calva?
Alors oui, j'ai ramené une bouteille mais malheureusement j'ai tout bu.
Bon bah mince, ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup Martin d'être venu et de nous avoir éclairé sur les clichés de Normandie.
Mais merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et comme on dit en patois normand, à tantôt.
Merci, merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant laisser place à notre célèbre quiz des régions. Alors, j'ai pas de voyage à offrir aux gagnants, mais seulement mon admiration éternelle, donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Dans le sud de la France, lorsque je commande un jaune dans un bar ou un café, je parle A. d'un digestif à base de liqueur d'anis, B. d'un pastis, C. d'un sirop d'orgeat.
Bah, d'un pastis, enfin, là, c'est que la Toulousaine qui parle en moi, là, c'est...
Ok, vous avez d'autres idées ou pas?
Même moi qui suis du Nord, j'aurais dit un pastis.
Okay. Franchement, le jaune, c'est le pastis, hein. Ouais. Je pense que c'est unanime.
Le pastis, il n'y a pas d'anis dedans? Non.
Si,
donc un digestif.
Si, ouais, il y a de l'anis, ouais.
Ok.
Bon. C'est pas très très bon de mon avis, mais.
Ça part sur le pastis ?
On part sur ça.
Ok, allez, bien joué. Je vous applaudis. Vous pouvez tous vous applaudir.
Merci beaucoup.
Très bonne réponse. Bon commencement. Allez, on enchaîne sur une seconde question. Dans quelle partie de la France apprécie-t-on particulièrement de tremper du fromage dans son café ? Attention, j'ai pas dit les propositions.
Ah, y a pas les propositions, désolé.
Vous êtes on a déjà une idée.
Alors, A, en Corse du Sud. B, dans les Hautes-Alpes. C, dans le Nord-Pas-de-Calais.
Ah bah, dans le Nord, avec une bonne tartine de maroilles, c'est parfait. Ouais.
Je crois que ça donne chez nous, ça. Ouais,
c'est bon ? Vraiment, vous mangez ça premier degré ?
Alors moi, personnellement, je n'ai jamais goûté.
Okay.
Mais le maroilles est très bon, le café est très bon, les deux ensemble, pas sûr.
C'est un peu compliqué, ouais, le matin.
T'as déjà goûté, toi ?
Ouais, j'ai déjà goûté, mais j'avoue, je suis pas fan du mélange.
Je suis archi fan, perso, moi, je suis archi fan. En fait, je bois peu de café.
Vous avez tous déjà goûté ?
Ouais.
Okay. Non, moi, non.
Ouais.
J'ai pas envie.
C'est très bizarre. Mais faut tenter l'expérience, faut tenter.
Ouais, je suis pas sûre d'avoir envie de tester celle-là.
L'expérience, ça va être trop bizarre. Je suis pas très d'accord, mais ok, on accepte. Bon, allez, on continue sur la troisième question. Attention, elle est pas facile, celle-là. Si vous l'avez vraiment, je vous félicite. Que désigne le mot kig a farz en breton ? Alors, je suis désolée pour les bretons, j'ai écorché la prononciation de ce terme un peu particulier. Je vous donne quand même les propositions. Alors, A, une danse traditionnelle. B, un plat typique. C, un chapeau.
C'est un plat typique.
Putain. Oui. Alors vraiment, t'es très fort.
je suis normand, mais depuis peu, j'ai rejoint le côté obscur et j'habite en Bretagne, à Brest. Oh bah. Donc maintenant, je le sais.
T'es un tricheur.
C'est un peu de la triche. Est-ce que tu sais ce que c'est comme plat ?
Ouais, c'est pas super en vrai. C'est on dirait une sorte de semoule. Ça ressemble pas. On dirait de la viande hachée, mais ça ressemble pas à de la viande hachée.
Ok.
C'est très bizarre. C'est vraiment que du blé, etc. Je sais pas comment dire. Ça n'a pas beaucoup de goût.
Moi, on me dit dans l'oreillette que c'est une sorte de pot-au-feu breton.
Alors, je me trompe peut-être.
Ouais.
Ok, bon.
En tout cas, c'est chelou.
Je suis pas encore assez breton pour savoir.
Ouais, peut-être.
C'est sûrement possible.
Allez, on continue. Un peu de concentration. D'où vient le mot troquet ? A, de la région Hauts-de-France. B, de la région Nouvelle-Aquitaine. C, de la région Île-de-France.
Nouvelle-Aquitaine.
Île-de-France ?
On a d'autres propositions ?
Bah, l'autre, hein, alors.
dites-moi, non, je vous dis qu'à la fin, essayez pas de m'avoir.
Troquet.
Moi, j'imagine vraiment un troquet vraiment dans le centre de Paris, en fait. Donc,
moi aussi.
Okay.
Moi, j'imagine à Biarritz.
Alors, c'est dans la région Île-de-France. Voilà,
yes.
C'est très parisien, effectivement.
Mais déjà, c'est quoi un troquet ?
En fait, c'est un petit bar.
Ok,
voilà.
D'accord.
C'est un troquet, mais moi non plus, je connaissais pas. Donc, franchement, vous êtes pas mauvais, hein. Allez, on en fait une dernière pour la route. Dans quelle région parlons-nous du mot quiz et non d'un quiz ? Dans la région PACA ? Dans la région Bourgogne-Franche-Comté ? Ou dans la région Grand Est ?
Ah, moi j'aurais dit Grand Est. Hein.
J'aurais dit Grand Est aussi.
Ouais, ok, bien joué.
Ok, bon, j'allais dire autre chose, mais trop tard.
Ah,
non, mais trop tard.
Non, je pensais à quoi ?
Je pensais à la région PACA, vraiment.
D'accord.
Je sais pas, je les imagine.
Ouais, bah ça aurait pu, mais non, c'est un truc d'Alsacien apparemment.
Perdu.
On va dire
un quiz.
Je savais même pas qu'il y avait deux sortes de. En fait, les U vachement.
Ouais, en fait, c'est ça.
U et pas. Enfin, je sais pas comment dire, mais.
Je sais qu'on disait. Chez eux, ils disent plutôt Twitter plutôt que Twitter. Enfin, ouais. C'est un peu particulier. Bon, bah écoutez, bravo à tous. Je pense qu'on peut s'applaudir.
Merci.
C'est pas mauvais. Bravo. En tout cas, j'espère que vous vous êtes amusés, les amis, et surtout que vous n'êtes sortis que plus riches de cette émission. Mille merci à toutes et à tous. J'adresse également de sincères remerciements à Mélissa, notre réal, grâce à qui l'émission s'est parfaitement déroulée. Enfin, comme d'habitude, hein. Je crois qu'on a tous beaucoup appris aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.